Un sorcier indien me disait un jour que son pays était aussi secoué que son cœur. Or, cet Indien vivait au Guatemala, un pays où il y a plus de 20 volcans, dont certains sont en activité de temps à autre. Un pays qui a traversé, au cours de ces deux dernières décennies, certains drames qui nous font mal au cœur aussi, bien sûr. Et ce qui est étrange, c'est que les hommes, les femmes, les Indiens, surtout de ce pays, lorsqu'ils vous parlent au présent, ont toujours un sourire aux lèvres et ont quand même, en même temps, une certaine façon de voir les choses de manière positive. Je veux dire par là qu'au fond, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a aussi toute une philosophie que les Indiens du Guatemala ont conservée et qui, curieusement, même si cette philosophie nous paraît étrange, leur permet de supporter leur présent et de supporter leur vie qui parfois est bien difficile. Nous allons nous promener dans certaines communautés du Guatemala aujourd'hui en compagnie de Diego Gradis afin de nous rendre compte que la magie, que certains rituels, que tout ce qui correspond, disons, à cet univers indien qui est souvent plus précolombien que catholique, bien sûr, existe, vit et revit même aujourd'hui comme jamais. Diego Gradis, quand on évoque le Guatemala d'aujourd'hui, bien que nous soyons intemporels, je dirais que la première chose qui touche le spectateur, ou plus exactement le touriste, parce que c'est un peu la même chose, c'est de se rendre compte qu'au fond, c'est un pays qui nous paraît toujours très serein, très calme, très printanier. Il y a sous cette apparence extérieure des vies, des Indiens, une majorité indienne, qui partagent un présent qui, au fond, n'est pas du tout le nôtre. Je veux dire par là qu'on a à la fois l'impression qu'ils sont dans un autre monde et qu'en même temps, ils cultivent cet autre monde pour vivre leur présent.
Le Guatemala, c'est le pays de l'éternel printemps. C'est le Guatemala. C'est le pays des Mayas. Il faut d'abord le situer un peu démographiquement. C'est un pays de 6,5 millions, 7 millions d'habitants, dont, selon les critères que l'on utilise, 75 à 80% sont d'origine maya. Nous allons parler tout à l'heure de l'église Santo Tomás de Chichicastenango, mais ce que vous venez de dire, je crois, la réalité sur le marché de Chichicastenango l'illustre très bien. Chichicastenango, tous les touristes connaissent, ils sont allés le jeudi ou le dimanche pour ce marché tout à fait exceptionnel où les hommes et les femmes kitschaient avec les importants, les enfants sur le dos et les poules, les fleurs merveilleuses dans les bras, viennent.
Et les cochons d'ailleurs, les cochons parce qu'on ne veut pas qu'ils perdent de poids.
Oui, avant qu'ils arrivent au marché, viennent sur ce marché et y exécutent des gestes qu'ils exécutent depuis des siècles pour vendre, pour acheter. Et en même temps, ces rites et cette magie, cette invocation des esprits, des puissances divines sur les marches de l'église. Et il y a ces nuées de touristes qui viennent regarder ce spectacle extraordinaire au sens étymologique du mot. Et longtemps, j'ai cru que le touriste, l'étranger, ne blâmons pas le touriste particulièrement, il a raison d'être là et d'apprendre et de connaître et de comprendre, que ce touriste, que cet étranger, ce blanc, cet homme lointain, dérangé. Et en fait, il y a un monde qui sépare ces deux êtres, celui venu de loin en short avec son appareil de photo et celui descendu de son village avec son cochon, son enfant, ses fleurs. Et sans pratiquement aucune communication entre les deux. Et les rites, les magies dont nous allons parler aujourd'hui, on les vit intensément sur le marché de Chichi, comme on le vit dans les centaines de communautés de ces montagnes et de la partie de forêt, du Pétén, jusqu'aux confins du Mexique, à la frontière du Honduras, sur la côte pacifique, comme au bord de l'Atlantique. Le rite et la magie maya préservée est omniprésent dans ce pays, dans le Guatemala, dans le Guatemala.
Quand vous évoquez ce côté maya, effectivement, quand on le vit à Chichicastenango pour la première fois, il y a plus d'une vingtaine d'années que je partage cet endroit avec eux, j'avoue qu'il y a quand même des évolutions qui sont assez impressionnantes. Parce qu'au fond, cette frontière que vous évoquiez tout à l'heure entre ces deux mondes, elle les rend presque aveugles. Ils ont besoin d'être aveugles pour nous ignorer. Je veux dire par là que sur les marches de Saint Thomas, lorsqu'ils balancent, il y a quelques années, ils balançaient des encensoirs de céramique, aujourd'hui de simples boîtes de sardines percées dans lesquelles ils ont déposé un peu de charbon de bois avec de l'encens, enfin le fameux copal des Mayas, le pomme. Mais quand on les voit travailler, parce que c'est un travail pratiquement, c'est une charge, c'est souvent une action obligatoire qui leur prend beaucoup de temps, on a l'impression que leurs yeux sont voilés et qu'effectivement ils nous ignorent, mais ils sont presque obligés de le faire. Je trouve que les rituels qu'on voit dans un endroit comme Chichicastenango ou ceux que vous évoquiez dans les petites communautés sont quand même vécus très différemment.
Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés. C'est une contrainte culturelle. J'ai passé beaucoup de temps. Je rentre du Guatemala et j'ai passé beaucoup de temps avec différents sacerdotes mayas. Nous allons en parler. Il faut en parler parce qu'il y a en ce moment, ce que j'ai pu constater, me rendant régulièrement dans ces pays, une renaissance assez curieuse et encourageante de la spiritualité et du rite maya. Et j'ai passé du temps avec ces sacerdotes maya. Qu'est-ce que c'est qu'un sacerdote maya ? C'est l'officiant des cultes de la religion traditionnelle maya, qui, bien qu'il y ait 25 peuples au Guatemala, les réunit sous cette sphère spirituelle. C'est lui qui est un paysan, comme les autres. Un campesino, un indien qui vit dans son village, mais qui a en plus la confiance et l'obligation, à la demande de ses concitoyens ou de ses frères, d'exécuter ses rites. Dans quel but ? Pour obtenir certaines faveurs, pour conjurer le mauvais sort, pour remplir un devoir que l'on s'est donné à certaines époques de l'année, de rendre grâce aux esprits, et on va voir le sacerdote maya qui, lui, est l'officiant, non pas collectif, mais individuel. Ça n'est pas une messe, ça n'est pas un service religieux. C'est un homme, une femme, ses enfants, ses beaux-enfants qui vont aller voir le sacerdoté et lui demander de venir dans leur maison réaliser le premier acte de la cérémonie.
Quand vous parlez d'acte, c'est donc bien un contrat en définitive. Je veux dire par là que la demande est l'offre. Celui qui fait l'offre, comment devient-il sacerdote ? J'avoue que j'ai déjà suivi en général ces systèmes qui sont presque des confréries parallèles. C'est quand même un pouvoir particulier.
Alors c'est un pouvoir qui est déjà déterminé de manière tout à fait scientifique par le calendrier maya. C'est en fonction. Bon, le calendrier maya est visuellement, c'est un cercle avec des triangles ou des parts qui déterminent des périodes d'une année qui n'a pas 365 jours, mais ce sont des cycles beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, nos scientifiques reconnaissent que le calendrier maya a une bien meilleure gestion du temps que les calendriers grégoriens que nous utilisons.
C'est vrai, on avait remarqué que même pour la planète Vénus, il n'avait fait que 17 secondes d'erreur par année, ce qui est assez extraordinaire. Mais quand vous parlez du calendrier tel qu'il l'utilise, avec ses 18 mois de 20 jours, avec ce petit wayeb de 5 jours, on arrive à une division du temps et qui est en même temps une division philosophique, parce que le chiffre 20, le chiffre 5, les grands chiffres que les Mayas utilisent toujours, font que au moment où quelqu'un naît ou lorsqu'un événement se produit, il est toujours en fonction de ce calendrier, c'est-à-dire un dieu et un chiffre.
C'est ce qui déterminera les élus de la religion qui deviendront sacerdotes mayas. J'étais dans cette petite communauté de Camanchach, proche de Chichicastenango, où des enfants se sont réunis pour former un groupe qui va essayer de promouvoir dans les autres communautés la spiritualité des anciens, de leurs ancêtres. Je parle d'enfants de 12 à 17 ans. Et une fille, parce qu'il y a des femmes sacerdotes mayas, il y en a de plus en plus, une fille était en formation pour devenir sacerdote maya, elle avait 13 ans, parce que le calendrier, justement, comme vous l'indiquez, sa date de naissance l'avait située dans un cadre de spiritualité qui l'a prédéterminée pour assumer cette fonction.
C'est-à-dire qu'au fond, quand on prend... C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je vous avoue que lorsqu'un sacerdote maya m'a fait mon calendrier et qu'il s'est amusé à décrire à la fois les chiffres et puis l'animal ou l'objet qui est en même temps celui du jour de votre naissance, ils savent d'avance qui vous êtes. C'est-à-dire qu'au fond, ça, c'est le côté prédestiné du précolombien.
C'est ce qu'on appelle le thème astral chez
nous. Tout à fait. Or, il existe toujours chez eux, vous avez raison, et c'est vrai qu'en général, une femme est toujours gérante, je ne sais pas, par exemple, de ce qui correspond aux animaux de la nuit, à la chouette ou éventuellement au jaguar pour un homme. Donc, on est déjà en train de créer une sorte de pyramide de pouvoir où certains signes, certains animaux vont prendre une place déterminante. Il est vrai qu'il est plus facile d'être chef lorsqu'on est jaguar que si on est petit lapin. Sans vouloir être confus, pénétrer dans la tête d'un Maya et s'imaginer, comme le dit Diego Gradis, ce renouveau précolombien à travers nos traditions actuelles, c'est quelque chose qui me travaille aussi, puisque quand on essaye déjà de voir l'univers du précolombien, il a des images dans la tête qui sont toutes faites. La première, c'est que Chichicastenango, puisqu'on prenait l'exemple, est un carré, et que ce carré est délimité par deux églises qui ont été construites par les Espagnols sur des ruines précolombiennes. Les 18 marches qui montent vers le temple sont associées à un hôtel qui se trouve en bas. Alors vous créez votre carré, vous vous dites, vous êtes au centre du monde. Et puis tout à coup, autour de ce carré, vous faites les 4 points qui créent l'espace. À partir de là, dans l'univers, vous allez pouvoir placer un nombre de cieux, ou des ciels si vous préférez, qui montent jusqu'au sommet et qui découpent ainsi le monde comme en tranches, comme en marches, et puis en même temps, de manière inversée, dans l'inframonde, vous aurez les 9 niveaux de l'inframonde, cet univers que les Mayas continuent à occuper avec des dieux, et en même temps qu'ils sont capables de prier. Alors, l'Olontun venant du chiffre 9, nous signifie bien qu'il y a un monde obscur, c'est celui justement des sorciers, des guérisseurs, de ces gens qui tout à coup auront ce pouvoir qui, entre guillemets, est obscur, mais qui n'a pas le côté magie noire que nous lui attribuons, c'est-à-dire au contraire, il y a un côté magie blanche, positive. Et en même temps, cet univers céleste qui, lui, est commandé de façon tout à fait différente par d'autres dieux qui sont positifs en général. Certains peuvent avoir un petit côté négatif aussi vis-à-vis de l'humanité. Et en même temps, le Maya va imaginer que dans l'univers dans lequel il habite, c'est-à-dire sa communauté, il existe un sommet, c'est-à-dire une pyramide. Une pyramide exactement comme à l'époque précolombienne. Et cette pyramide, mentalement, il va la découper en morceaux, en tranches, si vous préférez. Et il va placer sur cette pyramide non pas les signes du calendrier qu'on évoquait tout à l'heure et qui, eux, sont en fonction d'un temps qui revient toujours sur lui-même, c'est-à-dire qu'il tourne comme une immense roue dentée. À l'époque précolombienne, les Mayas avaient une roue dentée pour l'année solaire, une roue dentée pour le calendrier magique dont nous parlons, le calendrier magique et agricole de 260 jours, c'est-à-dire 13 mois de 20 jours. Ça, c'est le nom du calendrier qui va donner le nom à celui qui naît le jour X ou Y. Et puis en même temps, ce fabuleux calendrier vénusien de 584 jours qui lui tournait en même temps. Alors, je ne vais pas faire de mathématiques, mais quand on sait que le calendrier annuel de 365 jours et le calendrier magique de 260 jours se rejoignaient tout à fait par hasard au même cran après 52 ans, comme l'ont fait également les Aztèques, et que le calendrier vénusien devait attendre 2 fois 52 ans avant de retomber sur les mêmes dents, on s'imagine tout à coup un immense univers comme une machine. Alors je reviens à ma montagne, cette montagne découpée en morceaux, elle est habitée en général par les doubles. C'est-à-dire, lorsque l'on naît, on a naturellement un nom de calendrier, et en même temps un double animal. C'est-à-dire qu'en même temps que vous, un animal est né dans la nature, il pourrait avoir cinq pattes, vous l'auriez repéré si vous étiez chasseur, par exemple, pour éviter de le tuer. Et cet animal vit sur cette montagne, et obligatoirement, les petits animaux que nous connaissons, j'évoquais le lapin tout à l'heure, Diego Gardis, il y en a plus que des jaguars. Donc il est normal qu'il y ait plus de gens qui soient commandés par un jaguar parce qu'ils sont lapins. Je veux dire par là, le double animal est encore une correspondance avec le futur et la vie professionnelle ou religieuse ou disons sacerdotale de quelqu'un. Donc quelqu'un qui serait associé à la chouette par exemple ou éventuellement à l'univers du jaguar que j'évoquais, ce sont des animaux nocturnes qui ont un certain pouvoir, une certaine puissance et qui ont toujours été évoqués comme étant des grands dieux à l'époque précolombienne aussi. Alors ça se retrouve chez votre sorcier. Moi je l'appelle volontiers sorcier parce que ça a cette connotation magique peut-être plus que le sacerdote qui lui donne une idée plutôt religieuse. Mais ces gens-là
les
sont...
Les deux sont indissociables.
Tout à fait.
C'est certain. On ne compartimente pas la société et la culture maya comme nous le faisons pour la nôtre. Vous parliez des cycles, de cette immense roue, de cette immense roue dentée. Ce sacerdoté, ce sorcier que je rencontrais il y a quelques semaines... m'expliquer le renouveau que je constatais, le renouveau et les lueurs d'espoir qui surgissent aujourd'hui dans ce peuple maya qui a, comme vous le signaliez au début de l'émission, a souffert et continue de souffrir, mais a particulièrement souffert physiquement de la situation politique qui a été celle de ce pays, en particulier au début des années 80. Aujourd'hui, le peuple maya sort d'un cycle de 18 000 jours qui, selon le calendrier, a débuté, curieusement, en 1493, c'est-à-dire un an après ce fameux 12 octobre que nous allons célébrer ou contre-célébrer prochainement, et qui, pour le peuple maya, s'est terminé en 1985, ça a été... un pseudo-retour à la démocratie dans ce pays qui vivait sous une tutelle dictatoriale militaire extrêmement répressive et dure depuis de nombreuses années. Et un hasard, certainement pas, une lueur d'espoir. Et aujourd'hui, on assiste dans ce peuple maya, et nous en parlions à propos de ce renouveau de, des vocations maya. On assiste à une explosion, à un nouveau printemps d'initiatives, de prise de responsabilité et qui ont toujours comme élément sous-jacent cet élément religieux et spirituel.
Quand vous évoquiez ces 18 980 jours, puisqu'on peut être encore plus précis, c'est quand même assez fabuleux de penser qu'au fond, c'est quand même à cause de la connaissance actuelle, je veux dire de l'éducation, du fait que 18 980 jours peut être recalculé par un Maya d'aujourd'hui. J'entends par là, si moi j'évoque 18 980 jours, dans ma tête immédiatement, ce sont les 52 circuits de 365 jours et en même temps, c'est 73 circuits de 260 jours. Ça, je le sais parce que je l'ai étudié mathématiquement parlant, mais il est vrai aussi qu'il y a 20-30 ou même un siècle ou deux siècles, 30 ans, on avait tout fait pour que l'Indien ignore cette possibilité d'être lui-même rééduqué dans sa propre culture. Et j'avoue que quand je discute comme on le fait maintenant et comme les gens qui nous écoutent peuvent intervenir mentalement, et bien quand on le fait devant un indigène qui est devenu un sacerdote et qui a un pouvoir, donc une éducation, donc qui a peut-être le petit plus par rapport à ses congénères, et bien on remarque que ces gens-là réenregistrent ce que des scientifiques ou des ethnographes ou des archéologues ont retrouvé.
C'est une erreur que l'on fait trop souvent dans notre société de dire le peuple indigène n'a pas la conception du temps.
Ah, il l'a.
Il n'a pas la conception de notre temps.
Exactement.
Mais encore une fois, n'ethnocentrisons pas ce que nous ne comprenons pas.
Non,
la notion du temps, il l'a totalement.
Vous avez
il
raison.
L'a complètement, mais dans un autre concept, dans
ce que
un
je voulais dire, c'est que,
une autre sphère.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut justement rediscuter parce qu'à travers la connaissance plus profonde de leur philosophie, et l'archéologie nous a beaucoup aidés aussi par rapport à cela, on remarque qu'on peut carrément communiquer avec ces gens-là. C'est quelque chose de nouveau. Je veux dire par là, le renouveau que vous évoquez, c'est aussi le fait que ces gens-là sont capables de l'écrire sur un papier. C'est aussi le fait qu'ils sont capables de le transmettre oralement à quelqu'un d'autre. Là, il y a quand même quelque chose de tout à fait naturel par rapport à la fin du XXe siècle. ces gens-là, tout à coup, ont de nouveau une culture à part entière et se l'attribuent, mais ils l'avaient, bien sûr. La différence, c'est qu'au fond, il y a 20 ans, quand on parlait avec un indigène, il évoquait éventuellement le circuit du temps. Il l'avait par rapport à 20 ans, mais ne l'avait pas forcément par rapport à 52. J'entends, il n'était pas rentré dans le jeu des grandes mathématiques précolombiennes. Aussi, et là on a été très mathématique, on a été très grand prêtre précolombien sur une pyramide de Tikal, mais au fond quand on aborde une petite communauté, vous évoquiez tout à l'heure Kamanchar, ce sacerdote, ce sorcier que vous avez rencontré, décrivez-nous carrément les images de ce rituel. Comment est-ce que ça se passe? Il va faire ses achats, il prépare ses choses?
Il va à la petite boutique qui est le long de la route et il achète ces sortes de tubes qui n'ont de tube que leur forme, parce que ce sont des rondelles de copal.
Une sorte de petits pains de copal.
Des petits pains de copal qui sont entourés d'une feuille de maïs séchée. Il en achète une vingtaine selon ce qu'on lui a donné pour acheter, parce que lui n'a évidemment absolument aucunement les fonds pour le faire, mais c'est la contribution de celui qui fait donner, comme on fait donner une messe, qui fait donner la cérémonie. Il achète les bougies, un peu d'aguardiente, de cette eau de vie, de l'encens, des fruits, des cigarettes. Et il met tout cela dans sa besace et il se rend dans la maison dans laquelle on a préparé une pièce avec une table, des fleurs, parce que la fleur, c'est l'élément accessoirement décoratif, mais c'est surtout le respect que l'on donne et que l'on transmet. Et Tikal, Koban sont remplis de fleurs. Ces pierres sont incrustées du lys, du glaïeul. La famille est là. La lueur perce à travers une petite fenêtre. Le sol est recouvert d'épines, des aiguilles de pin. Les merveilleux tissages ont été placés sur la table et sur les murs. La famille est assise autour et le sacerdoté, deux en général. Dans un coin, le vieux joue du tambour et son compère, compadre, joue de la chirimia, cette petite flûte indienne au son très strident.
En fait.
Et la cérémonie débute avec les prières qui paraissent ponctuées du signe de croix très chrétien, mais la croix est bien et précolombienne, parce que la croix maya est une croix aux quatre branches égales, un peu comme le drapeau suisse.
C'est le carré de tout à l'heure avec les quatre points.
Et ce sont les quatre points cardinaux. Et le cœur de la terre mère, c'est le cœur de la croix. La cérémonie se poursuit avec l'encens qui, très rapidement, crée une atmosphère de lueur particulière dans cette pièce fermée avec ces bougies qui disparaissent derrière les fumées du copal et de l'encens, le parfum délicieux de cette herbe que l'on brûle, les fruits que l'on dépose, le chocolat, le chocoatlé, qui est réellement d'origine centra-américaine, le chocoatlé, le chocolat que l'on dépose également. Et la famille sort. Le sacerdoté sort, on attend, et une procession démarre. Ils sont à genoux, quatre fois, ils sortent et ils rentrent, toujours, ce quatre, jusqu'à l'autel. On embrasse ces feuilles de maïs contenant le copal que l'on va brûler tout à l'heure dans la seconde partie. La cérémonie dure une heure et demie. Il y a une atmosphère recueillie, mais c'est très détendu. Et au bout de cette première partie, on se lève, on emmène les objets du culte que l'on a bénis et on sort dans le jardin, derrière quelques pommiers. Et là se trouve le temple maya de la famille, avec au sol les quatre points cardinaux, les quatre temples, qui sont quelques pierres mises les unes au-dessus des autres et devant lesquelles on va à nouveau éparpiller des cigarettes, poser le chocolat, brûler des bougies, déposer les fruits, brûler de l'encens et suivre un rythme très méthodique du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest, avec toute une succession d'actes multiples auxquels participeront à certains moments la famille. Et on se prépare ainsi déjà à la troisième phase, à laquelle là nous ne participerons pas, parce que les deux sacerdotés vont remettre dans leur besace ce qu'il leur reste d'objets de culte. Ils serrent la main, ils remercient et ils partent. La cérémonie, étape numéro 2, est terminée. La troisième, nous ne la verrons pas, parce qu'elle va se dérouler sur les marches de Saint Thomas à Chichicastenango. Elle va se dérouler juste entre eux deux qui vont porter une dernière fois devant ce temple de la religion chrétienne édifié sur celui de la religion maya il y a environ 3 siècles. Ils vont porter les espoirs de cette famille qui ont trouvé dans la réalisation de cette célébration la possibilité de réaliser une fête, un mariage, un amour, une production. On ne le sait pas, on ne le saura pas. Et la cérémonie est terminée.
Vous venez d'évoquer le pago, ce paiement étrange, cette offrande étrange qu'on vient de vivre. Nous saurons tout à l'heure, après une petite pause sur les marches de Chichicastenango, nous montrons ces 18 marches, nous évoquerons l'autel où brûle du matin jusqu'au soir ce copal, ou plutôt ces petits pins de copal. Le copal, c'est cet arbre tropical de la jungle qui nous donne cette résine qui va brûler ensuite dans les encensoirs. Et puis, on passera les 9 autels qui nous séparent de l'autel principal. Et vous voyez qu'involontairement, grâce à Diego Grandis, on a évoqué le 4, on a évoqué le 5, on vient d'évoquer le 9. Tout à coup, l'univers se présente devant vous comme cette incroyable double pyramide renversée. Vous êtes en plein cœur, au centre, dans le 5e point, dans la maison, dans le jardin, dans l'église. Mais le sacerdoce est toujours au centre du monde. si un jour vous allez à Chichicastenango, n'y allez peut-être pas un jeudi ou un dimanche. Le marché est aussi pour nous, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à acheter. Auparavant, il y avait surtout beaucoup de choses à troquer. Entre 5h et 8h du matin, l'Indien est venu avec son bois qu'il a posé devant la chapelle du Saint-Sépulcre, à l'opposé, juste en face de Saint-Thomas, sur les marches. Et puis, il y a la poterie. Et vous avez des centaines d'échoppes qui vont être construites déjà dans la nuit, remontées. On va dormir, d'ailleurs, dans sa propre échoppe pour surveiller sa marchandise. Et les Indiens qui viennent de Kamanchar, comme on l'évoquait tout à l'heure, viendront naturellement à pied, à travers la campagne. Et petit à petit, 5 000, parfois 10 000, les grands jours de marché vont se retrouver peut-être un peu à l'extérieur où s'arrêtent les bus, où l'on vend justement les petits cochons, le marché aux bestiaux. Ça, c'est un endroit véritablement indien. Bien sûr qu'il y a notre endroit, celui où on achètera un sac, on achètera un tissage. Et puis, mine de rien, en se retrouvant devant les 18 marches de Saint-Thomas, on va se rendre compte que c'est vrai. On a interdit aujourd'hui de s'asseoir sur les marches aux étrangers. On a interdit de passer au travers des rituels parce que on ne se rend pas compte. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de couper entre l'autel et le prêtre au moment de l'évocation, au moment de la consacration de l'hostie. Mais un Indien d'aujourd'hui le fait sans broncher. Il faut vraiment une sorte de police locale pour organiser un peu ces deux mondes. Et c'est un peu la nouveauté de Chichicastenango. Il y a un univers touristique, il y a un univers indien. On pourrait tout à l'heure, avec Diego Gradis, aller peut-être un peu plus loin, mais j'aimerais que nous montions ensemble une fois de plus ces marches. Vous sentez l'odeur de ce copal avec ce gros hôtel construit au bas des marches où l'on a jeté des kilos et des kilos de pain parce que le sacerdote de tout à l'heure n'est pas seul. Il y a parfois 10, 20, 30 personnes qui sont sur ces marches et qui en même temps font ce pago ou leur propre pago. Et il y a quelque chose de curieux chez l'Indien et chez le Maya en particulier, c'est cette façon de remplir l'espace. Nous parlions du temps, nous avons rempli l'espace. On a remarqué que tout devait être mis en place de façon extrêmement précise. Et puis ce temps, qui est une occupation aussi parce qu'il se mange la queue sans cesse, tout revient. Une journée n'est faite que de 13 heures diurnes et de 9 heures nocturnes. Comme il y a 13 niveaux pour le ciel et 9 heures nocturnes sous la forme de la pyramide de tout à l'heure. C'est-à-dire que toute l'occupation du temps se passe à travers la journée, à travers la saison, à travers l'année évoquée. Et au fond, le pago, c'est un paiement, c'est une sorte de passage de temps pour la bonne récolte, pour le mariage. Mais c'est chaque fois que nous avons une clé dans notre espace-temps, dans notre espace-vie, qu'il faut payer, qu'il faut offrir quelque chose aux dieux, une sorte de compensation pour recevoir en même temps, en retour, les bienfaits de la nature particulièrement. Alors, une fois qu'on est monté sur ces marches, on remarque aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent de façon tout à fait solitaire et qui sont leurs propres sorciers et qui, en général, font ce que les précolombiens ont toujours fait, c'est-à-dire une sorte de confession à haute voix. Ça, c'est aussi une des choses les plus étranges de Chichicastenango, de voir des gens qui parlent tout seuls pendant une heure ou deux et qui racontent carrément leur vie, leur peine, devant ces marches parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, il y a un centre de pouvoir. Et lorsqu'ils ont terminé cette litanie, eh bien, ils vont pénétrer à l'intérieur. Et là, c'est vrai, il y aura d'autres offrandes, des pétales de rose, on adore, un peu d'alcool, un peu de Pepsi, éventuellement quelques grains de maïs ou d'épis de maïs. Et tout cela avec ces centaines, voire ces milliers de bougies que l'on retrouve par exemple le 21 décembre au moment de la fête de Saint Thomas. Et on remarque que ces autels qui sont placés en plein cœur de l'église sont de grands carrés de bois qui ont été mis par les Indiens eux-mêmes. Et il y en a 9, curieusement. Dès qu'on les calcule, on voit que le tout dernier est posé devant l'autel catholique. Et puis si par hasard, notre cher prêtre espagnol qui vit dans le couvent d'à côté décide de faire une messe, eh bien on débarrasse les 9 autels et le temple redevient chrétien, mais les Indiens sont déjà sortis, en fait.
Prêtre espagnol, je voudrais d'ailleurs mentionner que le précédent prêtre de Chichi était un prêtre maya, mais un prêtre maya dans tous les sens du terme. J'ai appris récemment que ce padre Ventura, qui hélas nous a quittés dans des conditions d'ailleurs qui n'ont pas été éclaircies, était sacerdoté maya.
Il est même considéré un peu comme un saint par les gens de la communauté de Chichicastenango.
Aujourd'hui, oui. Et c'est peut-être ce qui lui a valu de nous quitter trop tôt. Mais il était, Padre Ventura, l'expression de ce syncrétisme spirituel et temporel indissociable dans la cosmovision du Maya, et que l'on comprend immédiatement la description idéale que vous faisiez de l'église, de l'entrée dans cette église, dans ce temple de Saint Thomas, où on retrouve une conjugaison d'une religion pré- et d'une religion post-colombienne, comme on la rencontre rarement ailleurs. On la rencontre aussi, et de manière très curieuse, à Chajul, dans le fin fond des Cuchumatanes, qui est cette épine.
Une véritable Sierra Madre montagneuse locale.
Qui sépare le Guatemala Pacifique du Guatemala Atlantique. Et on arrive, encore une fois, dans une église, dans cette église de Chajul, qui a été le lieu de massacre que l'on a du mal à se remémorer au début des années 80. Et il y a un Christ debout, portant sa croix, qui est derrière l'autel, derrière une vitre, où viennent du matin au soir, et parfois du soir au matin, des femmes indiennes avec un voile sur la tête, leur huipil multicolore, leur faja, la ceinture qu'elles brodent et qu'elles tissent, comme leur huipil, qui tient le corte,
la jupe.
La jupe, toujours d'un bleu très, très profond et très contrasté avec cet arc-en-ciel du huipil. Et elles sont là, devant le Christ, portant sa croix, en train de rechercher leur compagnon. Et curieusement, ce Christ est entouré de mannequins qui portent un uniforme militaire et ont un fusil entre les mains. Mais parce que le Christ leur a joué un sale tour. On l'a retrouvé un jour dans la rue de Chajul, à la sortie du village, portant sa croix. Et les villageois l'ont arrêté, lui ont posé la question, mais où allez-vous? Où vas-tu? Rentre à l'église. Tu es chez nous ici. Et évidemment, il allait voir Saint-Pierre, qui lui est à Côte-Sal, à environ 25 kilomètres, parce que ça allait être la fête de Saint-Pierre. Et les villageois, très mécontents, l'ont ramené de force derrière l'autel, où ils l'ont enfermé derrière ses vitres. Et aujourd'hui, le Christ de Chajul est gardé par des militaires pour être sûr que les femmes puissent venir invoquer et espérer l'amour qu'elles recherchent, et que ce Christ indien, revêtu d'une grande robe tissée par les femmes de Chajul, un jour leur apportera la satisfaction qu'elles recherchent.
Était transporté en ce matin du 29 juin au moment où Saint-Pierre avait dû par les ondes, par magie lancer un message au Christ de Chajul afin qu'il vienne le fêter. Et cette évocation des saints qui sont souvent violentés par la communauté indienne, qui sont souvent appréhendés, comme on le voit, par la communauté indienne, c'est une chose assez naturelle, parce que quand on voit d'autres cas dans le monde indien, on remarque que parfois même, et au Guatemala c'est le cas par exemple à Santiago Atitlan, au bord de ce lac merveilleux, où de temps à autre on bat un saint, on le met de côté, on le supprime, on l'a fait, on a déjà parlé d'autres communautés du Mexique par exemple, où très souvent on détruit un saint simplement parce qu'il n'a pas obéi pays et qu'il n'a pas, en fait, rempli ses fonctions qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, on l'a payé, on lui a fait des offrandes, et en fait, il n'y a pas eu de réponse. Et ça peut très bien arriver à un grand saint qui, au fond, tout à coup, ne s'occupe plus des poulets, ne s'occupe plus des bœufs, lorsque vous avez une épidémie, par exemple. Donc, il y a un rapport aussi qu'on vient de deviner avec le Christ de Tchahoul, qui n'est pas un rapport chrétien, qui est un rapport magique, une fois de plus. C'est qu'au fond, la magie, qu'est-ce que c'est ? Par rapport à cela, par rapport au monde maya, c'est le fait que le sacerdote de tout à l'heure, qui était dans sa maison, dans son jardin, dans l'église de Chichicastenango, a une recette. Il est allé faire ses achats, il a fait une recette comme on ferait une recette de cuisine, elle est réussie, et si elle est réussie, obligatoirement, ce qu'il a demandé doit arriver. Or, si, à plusieurs reprises, ayant fait de bonnes recettes, les sorciers ou les fidèles remarquent qu'un dieu, un saint ou une image refuse de remplir son devoir, obligatoirement, on est également en droit de le supprimer ou éventuellement, au pire, de l'attacher, de le garder, de lui mettre les soldats de tout à l'heure. Alors, vous évoquiez ces divinités. J'aimerais peut-être que pour quelques instants, on parlait de Santiago Atitlán, on pourrait parler de Zunil aussi. J'aimerais que pour ceux qui nous écoutent, on rentre peut-être dans la maison d'une confrérie où il existe une divinité qui, elle, n'est pas seulement présente physiquement comme un mannequin de bois avec des tissus, un chapeau, un cigare, un masque de bois, des chaussures bien gringa, enfin bien de chez nous, de belles chaussures bien cirées, mais c'est quelqu'un, par exemple, à Atitlán, qui a une vingtaine de mâles d'habits que le mercredi saint, on va laver dans le lac et que le vendredi saint, on va promener de façon éblouissante dans le village avec des tonnes de fruits ramenés de la côte et qui le samedi jouera au Judas parce qu'il s'appelle Machimon, donc Judas Saint-Simon, c'est un élément tout à fait intéressant. Et à ce propos, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Diego Gradis, un Indien du Guatemala a toujours préféré Judas ou Saint-Simon, parce que Judas, justement, dans leur mythologie, dans leur formule magique, est celui qui, au fond, a été l'ingrédient de base qui a permis le sacrifice du Christ. Sans Judas, il n'y aurait pas le Christ, mais eux préfèrent Judas parce que Judas est à la fois celui qui trahit, il est humain, celui qui est payé, ils le font tous les jours en religion, et qui, en même temps, va permettre cet acte de sacrifice qui sera obligatoirement le retour du paiement que Judas a à la fois fait et reçu.
Je crois que là, vous avez résumé en trois axes l'histoire du peuple maya depuis 500 ans. D'avoir payé un tribut, d'avoir été trahi.
Et en même temps, de pouvoir être racheté comme ils le sont aujourd'hui.
Voilà. C'est effectivement l'illustration. Restons la magie est quotidienne, la magie est dans la manière dont on va ranger sa maison, dont on va décider du village, dont on va concevoir sa récolte, concevoir ses semences, s'occuper des enfants. Elle est omniprésente, elle est l'axe, elle est l'obsession, elle est la passion, elle est le leader, le guide de la vie maya. Il y a toujours cette espèce de complexité. Vous parliez du Machimon, qui soit Atsuni, la Patsun à Atitlán. C'est ce qu'on appelle en anglais le love-hate relationship. C'est l'amour et la haine en même temps. On le respecte parce qu'on le haït, mais on le haït parce qu'on l'aime.
Il a à la fois l'image du gringo, c'est-à-dire je dis du gringo parce que c'est nous, mais je dirais plutôt de l'espagnol, c'est-à-dire le blanc, le conquérant, celui de l'extérieur, celui qui a des pouvoirs et qui a de l'argent souvent, parce qu'au fond l'Indien nous envie aussi pour cela, d'avoir des pouvoirs et de l'argent, et au fond le Machimon le remplace. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous disiez par rapport au mot magie, je crois que pour ceux qui ne connaissent pas le Guatemala, il y a quand même une chose à évoquer dès le départ. Ce que nous oublions dans cet univers qui est tellement différent du nôtre, c'est que je tiens un crayon, je suis devant un agenda, nous avons une feuille de papier, nous avons un micro, et pour un Indien, que ce soit cela, un simple instrument arable ou de cuisine, tout est habité. Et ça, c'est peut-être l'élément de base qu'il faut peut-être comprendre. Tout ce qu'on vient d'évoquer, vous parliez de la construction d'une maison, les quatre pieux sont habités et vont pénétrer la terre. C'est un acte presque sexuel, on va placer les quatre points cardinaux, donc au centre, on va mettre le foyer avec les fameuses trois pierres, le comal pour le maïs, et en même temps, juste avant que le toit soit mis, avant que tout soit précis, eh bien, on va mettre un peu de sang de dindon aux quatre angles, et au centre, on va mettre la tête de cet animal qui est sacré et qui sera le paiement, une fois de plus, cette location extraordinaire que l'on fait à la de la terre. Donc, simplement pour dire que chaque objet, chaque chose qui bouge, chaque chose qui est inerte autour de l'Indien est totalement vivante.
La maison, on ne la détruira jamais. Le monde indien, depuis l'Alaska jusqu'au Mapuche du sud du Chili est jonché de ruines de maisons parce que l'âme et l'être meurent, mais celui qui habite la maison, l'être ou l'âme qui est propriétaire de la maison, lui demeure à jamais. Et en plus, la maison, jusqu'à l'utilisation croissante de matériaux extérieurs, de quoi est faite cette maison ? Elle est faite de la terre. C'est l'adobe, la terre crue, la brique crue que l'on fabrique autour de sa petite maison pour construire la maison du fils ou de la famille du gendre qui s'est marié et qui maintenant va habiter seul. On élève une maison à partir de la terre mère. Et cette maison est le symbole également de cette quadrature que vous indiquez et dans lequel vont se répéter au fil des années, des décennies et des siècles, des rites et des actes et des croyances profondément ancrées dans l'histoire de ce peuple et sa culture. Et là encore, lorsqu'on entre dans une maison indienne, il y a différentes étapes. On s'arrête à l'extérieur. On n'appelle pas, on attend qu'on soit entendu, parce que on ne va pas violer l'intimité, non pas l'intimité au sens occidental du terme, mais l'intimité du groupe qui y vit et auquel on n'a pas accès parce qu'on n'y appartient pas, et on attend qu'on vienne vous dire. J'étais à Chimbang, je ne sais pas si vous connaissez l'église de Chimbang, qui n'est pas une église, qui est derrière, au fond, des Kuchumatanes, déjà lorsqu'on redescend vers l'Ishkan, et il y a un temple assez volumineux, recouvert de toits de chaume d'ailleurs, parce qu'il a été construit assez récemment, il y a une trentaine d'années, parce qu'il y avait des prêtres d'une congrégation nord-américaine qui étaient présents dans la région et qui avaient interdit aux Indiens le respect et les cultes des imágenes, de ces images, de ces figurines de bois représentant les saints. Alors les Indiens, voyant que ce qu'ils avaient réalisé depuis toujours dans le lieu de culte catholique, sont allés et ont retiré ces images qui leur appartiennent et ont construit l'église ou le temple de Chimbang, qui lui n'a pas d'autel comme à Chichicastenango, c'est simplement une sorte de banquette sur trois côtés, sur laquelle sont posées dans la parfaite obscurité une cinquantaine d'images de différentes dimensions récoltées. Et les images se sont plaintes parce que, évidemment, c'était facile de couvrir avec de la tôle ondulée. Mais elles avaient froid, et lorsqu'il pleuvait, il y avait du bruit. Alors elles se sont plaintes, elles ont dit si c'était ça, eh bien elles iraient, comme le Christ de Chahoul, elles iraient ailleurs. Alors ils ont recouvert d'un toit de chaume, et on a une chaumière sanctifiée dans le monde indien de Chimbang.
Nous venons d'évoquer plusieurs points de ce petit pays qu'est le Guatemala. Nous avons passé derrière la grande chaîne à la fois des volcans et des hautes montagnes du Kuchumatanes, enfin ces Kuchumatanes qui rejoignent le Mexique. Nous étions tout à l'heure à Chichicastenango, en plein cœur du pays, avec des falaises et des vallonnements extrêmement marqués. Nous avons également parlé du lac Atitlan. Le lac Atitlan, ça reste quand même peut-être le décor le plus idéal pour le touriste occidental. C'est le fait de de se rendre compte tout à coup qu'un lac a pu exister simplement parce que les volcans ont créé un jour un barrage, un barrage gigantesque en fait, qui empêche cette eau de s'écouler du côté du Pacifique où l'on est très vite, où l'on plonge très vite à travers les forêts de pluie. Et puis là, à 1600 mètres d'altitude, tout à coup, tout s'est bloqué, l'eau est montée. Et c'est un lac qui fait un peu artificiel avec un décor complètement artificiel, avec ces trois volcans à l'horizon. Et puis ce petit estuaire que l'on pénètre petit à petit à travers à la fois les petites huttes des Indiens, mais surtout leurs bateaux. Ils sont à la pêche. Ils portent, comme vous le disiez, des costumes éblouissants. On remarque partout l'icate avec cette formule étrange qui fait que l'Indien aimant perdre son énergie pour valoriser les choses, est capable de prendre des fils, une centaine de fils ensemble, de faire des petits nœuds, simplement pour donner un peu de couleur à l'endroit où il n'y a pas de nœuds. Et ensuite, vous mettez tout cela sur un métier à tisser et vous refaites le dessin que mentalement vous avez inventé avec des nœuds. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça montre l'univers mental de l'Indien. Et vous arrivez à Santiago Atitlán et vous allez rendre visite à Machimón, que l'on évoquait. Et c'est une petite hutte. Je disais déjà qu'il y vivait comme un être qui correspond à une communauté. Il est vivant au sens physique du terme. C'est un mannequin de bois. On ne sait pas exactement quel est son cœur, quel est son intérieur. Peut-être une pierre, peut-être quelque chose de particulier. Il y a des légendes sur place qui évoquent qu'on a taillé son masque dans un tronc et qu'il y a eu tout un tas d'histoires autour d'un jeune garçon qui était censé surveiller les femmes et qui aurait trahi et qui se serait ainsi transformé en Machimón. De nouveau, un peu l'image de cette coupure entre le passé et le présent, où l'on sent à la fois cette trahison et ce rachat que vous évoquiez. Alors quand on pénètre dans la hutte de Machimón, on est quand même assez troublé par cette vision qu'on a déjà sentie dans la hutte de tout à l'heure, mais on est troublé surtout par le calme des gens de la confrérie. Ils sont assis, ils vous reçoivent comme si vous étiez vous-même indien, si vous avez cette patience d'attendre devant la porte, si vous avez cette patience de vous asseoir sur un banc et de vous laisser aller une heure, deux heures, sans qu'il ne se passe rien, jusqu'à ce que vous ayez véritablement un contact avec eux.
Et on s'abandonne. C'est un pays où on doit s'abandonner. C'est un pays où on ne court pas. On est assis avec des hommes et des femmes, à la lueur des bougies. Parfois, le Machimón est sur son petit cheval de bois. On le regarde, on le respecte, on le fait fumer, on le fait boire. Et on attend quoi ? On n'attend rien. On attend que ça passe, comme on dirait chez nous, mais rien ne se passe. Nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans un autre contexte, dans une autre sphère. Elle est indescriptible, il faut la connaître, il faut la rencontrer, il faut savoir qu'elle ne nous appartient pas. Il faut savoir que nous ne pourrons pas nous y intégrer complètement, nous n'avons pas. Mais les Indiens sont des personnes qui acceptent de nous montrer, qui acceptent de nous faire partager. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été trop longtemps leur honte, leur handicap et la source de leur misère et de leur souffrance... Aujourd'hui, ils veulent nous dire que cette identité, cette magie, ces rites dont nous avons parlé, c'est leur force, c'est leur espoir. Et c'est dans cet espoir et dans cette force, dans ces coutumes et ces traditions qu'ils vont puiser pour demain, pour l'avenir, pour le futur, la force intérieure pour construire le progrès et trouver des solutions aux difficultés matérielles qu'ils rencontrent quotidiennement. Je crois que c'est ça, les rites et les magies du peuple maya. Thank you.